Et maintenant, c'est l'heure des RLP Sport avec Thomas. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des RLP Sport en direct sur Radio Libre en Périgord. Et ce soir, nous allons parler pour la première fois dans cette émission de basket. Et nous recevons Valentin Coiral du club du SAS Basket, le basket de Sanilhac, pour faire plus simple.
C'est ça, tout à fait. C'est bonsoir ça. À tous.
Ouais. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour un petit club qui monte dans la hiérarchie départementale en Dordogne en basket. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton rôle au sein de l'association et puis les personnes qui s'en occupent, comment vous êtes organisé?
Ouais, c'est ça, un club qui commence à monter un petit peu dans le domaine du basket. Du coup, moi, mon rôle, je suis joueur, je suis coach et je suis aussi au sein du bureau et je suis service civique. Donc, je fais toute la communication du club, donc je fais pas mal de choses. Donc, ce club, il a été créé il y a maintenant une dizaine d'années par Teddy Guiton avec toute une bonne base qui était à Razac. Et voilà, depuis Teddy Guiton est toujours président de ce club depuis 10 ans. Et voilà, c'est un club qu'on essaie de monter. Et franchement, on se débrouille plutôt bien pour l'instant.
Ouais, ça marche plutôt pas mal. Y a un peu plus de 80 licenciés, c'est ça?
Plus
que ça.
On est à plus de entre 130 et
140. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors c'est moi qui vais demander les mauvaises infos. donc on a 130 et 140 licenciés. On a des gamins. Des petites aussi, un peu dans toutes les catégories.
Ouais, on n'a pas de filles à part dans les catégories enfants. Sinon, on a des garçons sur toutes les catégories à part sur les Benjamins, sur les U13. On n'a pas d'équipe cette année.
D'accord.
Mais on a des U9, U11. On a deux équipes U15, deux équipes U17, deux équipes seniors. Donc une qui évolue en régional 3 et une en départemental 2. Et on avait une équipe senior fille l'année dernière qui malheureusement n'a pas pu continuer cette année. Donc,
d'accord, par manque d'effectifs.
Ouais, par manque d'effectifs, de coach, etc. Donc voilà, et les U13, pareil, par manque d'effectifs. Mais du coup, vu qu'on a pas mal de U11 qui vont monter en U13 l'année prochaine, on aura sûrement une équipe en Benjamin l'année prochaine.
Ouais, alors c'est peut-être le point noir ça, les senior filles. Est-ce que c'est dans les tuyaux de relancer ça pour la saison prochaine?
Bah, pourquoi pas. Après, c'est vrai que quand on n'a pas de formation chez les filles, forcément, c'est compliqué derrière d'avoir des seniors. Donc oui, bien sûr, c'est toujours bien d'avoir une équipe de filles. Hein.
Oui.
Mais faut avoir les joueuses, faut avoir les coachs. Donc c'est ça qui a manqué. Donc pourquoi pas. Après, pourquoi pas en faire une. Hein.
D'accord. Ouais. Ok. Très bien. Non, mais il y a pas de souci. Alors début de saison pour l'équipe phare, l'équipe Fagnon, on va dire en régional 3. Avec pas mal de derby dans la poule et un début de saison qui a été assez compliqué et on s'y attendait pas forcément du côté du SAS. Comment on peut expliquer ça?
Un nouveau groupe, alors pas forcément renouvelé à 100% mais renouvelé avec quelques joueurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Donc voilà, c'est toujours un nouveau groupe à former, des nouvelles tactiques, des nouvelles choses à mettre en place. Et c'est vrai que ce début de saison, honnêtement, je m'y attendais aussi que ça soit pas simple, parce que je connaissais les équipes, parce qu'on les avait jouées l'année dernière, et je connaissais les nouvelles équipes qu'on avait dans la poule, qui sont deux équipes de Gironde, et forcément la Gironde avec un niveau supérieur, enfin je savais à quoi m'attendre. Un début de saison un peu compliqué. Après, il y a quelques matchs qu'on loupe de pas beaucoup.
Ouais.
On joue au premier match, on perd de 10 points contre Marmande, qui a une équipe 1 en N2,
oui,
en National 2. Donc beaucoup de jeunes joueurs qui ont du potentiel et qui peuvent espérer avoir du temps de jeu en National 2. Donc ça joue très bien en basket. Et donc c'était notre premier match. Donc forcément, on perd logiquement. On enchaîne plusieurs matchs, on perd contre le Bec chez nous de 1 point, donc une équipe de Gironde de 1 point, une très belle équipe aussi, et on perd de 1 point. On a le shoot pour gagner qu'on ne met pas. On va dans le derby contre Bergerac, on fait un très beau match tout le long du match, on perd de 4 points. Donc voilà, ça se joue à des détails. Voilà, ce week-end, on reçoit le leader qui était Saint-Delphin avec Bergerac.
Voilà.
On s'est fait, c'était une super équipe. Bon,
Saint-Delphin, on peut préciser où c'est ça, parce que
ouais, c'est en fait c'est Villeneuve d'Ornon.
Ouais, d'accord.
Donc
okay.
C'est Gironde, c'est
ouais,
Gironde.
C'est pareil.
En fait.
Ils remuent un arbre, ils ont des joueurs partout là-bas.
Ouais, ouais, c'est ça, clairement. Quand tu vois le complexe sportif de là-bas, Villeneuve d'Ornon, ils ont un gymnase, il y a deux terrains dans la salle.
Ah ouais.
Ouais, j'y suis déjà allé. Et il y a deux terrains de basket en fait dans la salle. Donc c'est vrai qu'ils ont des installations meilleures que nous, c'est la Gironde quoi. Et ouais, donc on fait un match où on perdait de 24 points dans le troisième quart-temps. On arrive à recoller à 7, jusqu'à 7 points, mais après ça n'a pas suffi. Ouais, vraiment une équipe supérieure à nous. Donc voilà, après on a su prendre les matchs, on va dire, les matchs qu'on devait gagner, on a su les prendre.
Ouais, dans la victoire dans le derby.
Dans le derby, ouais, qui était plus compliqué que prévu, mais qu'on a gagné.
Ouais.
Et ouais, du coup là, il nous reste des matchs pas faciles. On va en déplacement ce dimanche à Villeneuve-sur-Lot, qui est une forte équipe. Aussi,
oui,
qui a mis une en National 3, ouais. Qui a mis 50 points à Bergerac.
Ouais, qui a mis un éclat à Bergerac, ouais.
Et l'année dernière, on avait pris une belle fessée aussi. En y allant, on avait pris une trentaine de points parce qu'ils avaient fait descendre des joueurs de la Une. Donc on sait que ça va pas être un déplacement facile.
Ouais, Villeneuve, c'est même à nulle part. Au foot, au rugby, c'est pareil. Est-ce que tu peux nous présenter également le staff technique de l'ensemble du groupe ? En équipe 1, chez les jeunes, comment vous êtes organisé en fait,
les joueurs, les coachs, tu veux.
Ouais, les noms des coachs, le nom de l'encadrement, okay. Les bah, historiques.
Donc tu as toujours Teddy Guiton qui est le président qui est souvent là, ouais. Et qui c'est lui qui a repris du coup le coaching de l'équipe 1. Après, on a Nicolas Bénérol qui est aussi, donc là il est sur les U17, les U11 et les U20 maintenant. C'était lui qui nous coachait en début de saison, mais du coup ils ont inversé avec Teddy. Donc, c'est ces deux personnes principalement. Après, moi je suis sur la partie sur les U15 avec. De quoi ?
Sur la partie éducative, formation.
Ouais, c'est ça, je suis sur, c'est ça, avec Romain aussi qui est avec moi. Et après, on a des jeunes aussi qui sont en formation stable, ce genre de choses, qui viennent aider aussi, donner des coups de main sur les jeunes, sur les U11 par exemple, ou les U9 le samedi matin. Donc voilà un peu comment ça
s'organise.
Un peu, ouais.
La formation, c'est clairement une obligation dans un club comme le SAS Basket.
Ouais, bien sûr. Hein. Bien sûr. Le but, c'est d'avoir une équipe compétitive en senior. Et donc, si tu n'as pas de joueurs qui arrivent de tes équipes cadets ou U20 qui sont au niveau pour jouer en régional 3 ou plus haut, bah forcément, au bout d'un moment, ton vivier, tu n'as plus personne pour jouer. Et donc, c'est compliqué. Donc, ouais, c'est important d'avoir une formation et d'avoir des joueurs capables d'intégrer un groupe et de pouvoir jouer à ce niveau-là. Donc, ça passe par la formation les années d'avant. Donc c'est important, ouais.
Pas de souci, on l'entend, c'est très bien. En off, tout à l'heure, on disait qu'on parlait mais qu'en Dordogne, il y avait 24-25 clubs de basket et qu'autour, on en avait pas mal aussi, autour de la couronne périgordine. Mm-hmm. Et que toi, bizarrement non, mais en fait, tu as beaucoup de gamins qui viennent un peu du sud, en fait. Mm. Voilà, est-ce que tu peux nous le dire, ça, nous expliquer ?
Ouais, moi, j'ai pas mal d'enfants qui viennent de plutôt vers la 12, côté-là de la Dordogne, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que Périgueux, il y a un gros vivier de clubs, mais c'est vrai que dans tout ce sud de la Dordogne, entre Sagnac, Bergerac, Lalinde, voilà, c'est ces trois clubs. Il n'y a pas forcément d'autres clubs, donc vu qu'on est le plus proche de Périgueux,
facilement c'est accessible aussi.
On est accessible, voilà, ouais. c'est on attire cette population là, on va dire.
Ouais, mais c'est sûr. Et aussi les installations qui sont quand même à mettre en avant au niveau du complexe, c'est à la pierre grise, hein,
c'est ça.
C'est là où il y a tout.
C'est ça.
Tout se passe.
Non, c'est vrai qu'on a un beau gymnase, un beau complexe.
Ça aussi, ça permet d'être un peu confort et d'attirer quand même peut-être des enfants, des parents plus facilement.
Ouais, tout à fait, ça joue forcément, hein, c'est sûr.
La commune joue un rôle sportif.
Oui, après, comme je te disais en off, c'est parfois compliqué de jongler entre tous les sports.
Ça, mais, c'est les salles.
et de trouver les créneaux, etc. Mais ouais, forcément, la commune joue un rôle.
Ouais. Cool. Et la commune qui était terre de jeu, auquel le club de basket a participé.
Tout à fait, ouais.
Ça donne de l'importance aussi au club. On se dit que dans une année olympique, on a quelque chose à jouer aussi.
Ouais, toujours. Après, j'étais pas disponible lors de cette journée, mais on m'a fait des retours et c'est vrai qu'apparemment il y avait du monde. On a eu des enfants après qui sont venus essayer et tout. Donc ouais, c'est toujours bien d'avoir cette visibilité là et voilà de pouvoir avoir des enfants qui viennent essayer le basket sur ces journées-là et qui derrière vont intégrer le club, c'est toujours bien. Hein.
C'est toujours, ouais, c'est toujours le but. Ouais. Et puis que les enfants fassent du sport, surtout, c'est important. Est-ce que les nouvelles pratiques, alors nouvelles pratiques, je sais pas, mais comme le 3-3 qui tourne pas mal avec Paul Billong là, qui nous a fait un exploit cet été là. Est-ce que ces nouvelles pratiques peuvent un petit peu démystifier puis dépoussiérer un peu le basket qui a quand même une image. On voit pas beaucoup de basket à la télé. On a la chance d'avoir un club phare en Dordogne qui donne du spectacle et tout. Mais est-ce que ces nouvelles pratiques là, le 3-3 par exemple, qui est très très spectaculaire, peut apporter des licenciés aussi?
C'est une bonne question. c'est vrai que la diffusion de du basket à la télé, c'est pas. Enfin, je trouve que la LNB fait pas le bon travail entre guillemets pour pouvoir diffuser plus de matchs. Ouais. Après, bon, je suppose qu'il y a de l'argent en jeu, qu'il y a les diffuseurs, etc. Même si, bon, voilà, pour le BBD, on a LNB TV par exemple, ce genre de choses où c'est gratuit, on peut le regarder. Mais bon, si t'es pas fan de basket, à part être fan de basket, les autres vont pas regarder, tu vois. Ouais. Donc
souvent les matchs sont même pas commentés et tout, c'est compliqué.
Alors que si t'es devant ta télé, qu'un soir tu es sur l'équipe, tu vois un match de basket, tu vas regarder. Mais c'est vrai que t'en as un par semaine. Après, ça va être sur Bein Sports, ce genre de choses. Donc c'est vrai que la diffusion est compliquée. Et donc sur le 3-3, après on va voir la même chose, tu vois. C'est pour ça que ça rejoint ta question. Enfin, je pense que ça rejoint ta question. C'est que le 3-3, à part les lives YouTube, ce genre de choses, ou sur l'équipe parfois, j'en ai rarement vu à la télé ailleurs, tu vois. Donc oui, ça peut aider, mais si c'est pas diffusé, c'est toujours pareil, c'est compliqué que ça change dans l'esprit des gens, quoi.
Est-ce que c'est quand même une problématique, très, très clairement, la sous-médiatisation, alors que c'est un sport hyper spectaculaire. Les gens qui vont pour la première fois voir un match de basket, j'ai de la famille, moi, qui est allé au Palio pour la première fois cette année, mais qui m'a dit, mais c'est génial, c'est dynamique, c'est plein de vie, c'est physique, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est technique. Quand il y a des réunions de comité, de ligue, ça serait quand même à mettre en avant, ça, parce que je suppose qu'il doit y avoir des budgets pour la communication.
Ouais, je suppose. Après, ça, c'est vraiment la Ligue nationale de basket, je pense. Hein. Après, je m'y connais pas assez bien, mais je pense que c'est vraiment géré là-haut, comme le foot, ça doit être la FFF ou...
Ouais, la Ligue, ouais, mais ou c'est... Ligue, ouais.
À un moment donné, il y avait pas mal de matchs sur Canal Plus Sport, genre de choses. Et moi, tu vois, qui suis fan de basket, c'est vrai que même la Pro, je regarde beaucoup moins parce que c'est pas diffusé, tu vois. De temps en temps, je regarde l'Euroleague parce qu'il y a Monaco, l'Asvel et c'est diffusé sur l'équipe et que c'est des beaux matchs. Et que c'est des gros matchs. Et voilà. Mais si t'as pas un abonnement, bon, là, il y a SK Week, là, avec Tony Parker, là. Mais voilà, si tu es pas fan de basket, c'est une des chaînes qui diffuse que du basket. Donc c'est compliqué après derrière tu vois, de t'abonner à, déjà qu'il y a énormément de diffuseurs qui pour le foot, etc., que t'as Bein Sport, t'as Amazon, t'as Canal Plus, t'as machin, t'as Dazen, t'as je sais pas quoi. En plus tu vas prendre ton abonnement à 6 ou 9 balles pour regarder que du basket, tu vois, c'est compliqué, tu vois.
Ouais, donc c'est sûr.
Ouais, c'est pas facile.
Ça aide pas. Pour en revenir au SAS Basket, pour toi, quelle serait la philosophie, comment tu pourrais définir ton club?
Bah moi, je dirais que c'est un club familial et qui a des ambitions, pourquoi pas, de monter son équipe une le plus haut possible dans les années à venir et de créer surtout une certaine convivialité, un esprit familial et qu'il y ait de la compétitivité aussi. Parce que pour moi, le sport, c'est important. Mais si t'es pas compétitif, c'est pas...
ouais, je comprends.
C'est pas très intéressant. Donc non, faut qu'il y ait tout, tu vois. On a aussi des loisirs, donc tu vois, faut qu'il y ait de la compétition, et il faut qu'il y ait des équipes aussi qui soient là pour les gens qui veulent faire du loisir ou qui veulent débuter. Donc il y a de tout, tu vois. Il y a des équipes une qui vont être compétitives pour essayer de gagner des championnats, ce genre de choses, ou monter de division, et il y a des équipes qui vont être plus là pour les débutants et pour commencer le basket et pour essayer de, comme tu disais, de former des jeunes, et voilà. Quand tu commences de zéro, tu peux pas devenir tout de suite bon, donc forcément il faut des années avant de devenir bon.
Est-ce qu'il faut une petite question, est-ce qu'il faut forcément être grand pour jouer au basket?
Non,
voilà.
Après je vais prendre l'exemple de Tony Parker. Après il est pas si petit que ça, Tony Parker. Je crois qu'il fait entre 90 quasiment. Il est pas si petit que ça non plus, mais non, faut pas être forcément grand. Après, bien sûr que ça aide quand t'es jeune, si t'es plus grand que tout le monde, bien sûr que ça aide. Après, il y a des grands qui n'ont pas de motricité et qui manquent de...
Enfin, qui tiennent de dextérité,
pas, de dextérité, de... Ouais. etc. Et au final, la taille n'aide pas beaucoup. Donc bien sûr, oui, si tu fais la taille de Wembanyama et que tu es aussi mobile que lui et que tu as une aussi bonne dextérité, un aussi bon tir, bien sûr que ça aide. Ça, je peux pas le nier. Mais ça veut pas dire que si tu es petit, tu peux pas réussir. Il y a aussi des exemples dans le basket, plus petit que Tony Parker, même en NBA, des joueurs qui faisaient 1m70, 1m75, qui ont fait carrière et qui étaient très bons. Donc après, c'est juste savoir comment jouer. Enfin, c'est jouer différemment.
Jouer avec ses forces.
C'est, voilà, c'est ça. Ouais. Exactement.
D'accord. Est-ce que justement des exemples comme Victor Wembanyama, Marin Johannes qui explose dans les ligues américaines, est-ce que ça fait du bien aussi quand même au formateur que tu es? Est-ce que ça fait, voilà, ça...
Forcément, quand les jeunes voient ces joueurs-là, forcément que ça, je pense que ça aide le basket à être démocratisé. Il y a une génération, on peut, je pense, remercier la génération Tony Parker, qui a été le précurseur de ça, qui du coup derrière on a les Marin Johannes, les Victor Wembanyama qui arrivent. Après bien sûr que à Victor Wembanyama, je pense que tu en auras un, je pense que tu en auras pas d'autres, je pense, et voilà, et ça t'arrive pour, et ça arrive à la France, donc c'est juste ouf. Ça aurait pu arriver à n'importe quel autre pays. Et ouais, je pense que c'est important pour les jeunes parce qu'ils voient ce genre de joueurs. Après, pour la formation, ça dépend, parce que quand tu regardes la NBA, ça shoot beaucoup à 3 points. Donc quand tu vois les jeunes qui sont en 15 ans, qui n'ont pas de force et qui veulent tout shooter à 3 points, tu vois, des fois quand tu es formateur, c'est vrai que ça peut poser des problèmes, tu vois. Mais bon, c'est l'évolution du jeu qui est comme ça. Et voilà, on peut pas changer ça. Moi aussi, je suis un shooter à 3 points, donc je ne vais, vais pas renier
non,
ça.
Non, mais bien sûr, on verra après. Oui. Et puis après, on l'a reculé la ligne en plus là, depuis quelques temps. Donc,
Surtout NBA, ouais.
Ouais, surtout, ouais.
Il parle même d'une ligne à 4 points, alors. C'est pour te dire.
Ah ouais, d'accord. On parle même d'une ligne à 4 points. Alors là, Stéphane Curry va se faire plaisir. Et tous les ans, alors je sais que vous faites beaucoup de manifestations pour faire rentrer des sous, hein, parce qu'on en parlait aussi. On tape un petit peu tous dans les mêmes portefeuilles, hein, dans tous les clubs. Quelles sont les animations que vous faites au SAS?
Alors, nous, après, on va faire des manifestations assez classiques, des belotes, des lotos.
Des belotes, ça se fait de moins en moins. Hein. Mais j'ai remarqué que vous en faisiez beaucoup.
Ouais, on a fait des belotes, des lotos. Des vide-greniers, ce genre de choses, enfin, voilà, un peu classique, on va dire. Et après, on a aussi le All-Star Game d'Ordogne, qui est un gros événement, qui est un de nos événements majeurs à nous. Donc, c'est vers mai.
C'est au mois de mai, ouais.
C'est au mois de mai. Mmh. Et en fait, chaque année, depuis maintenant, je crois que c'est la 10e année cette année. Ça va être la 10e année, donc ça fait 10 ans. En fait, on réunit les meilleurs joueurs d'Ordogne. On fait comme All-Star Game à la télé, en fait. Hein. On réunit deux équipes de Dordogne. On fait, alors, soit on réunit, on coupe le département en deux, on fait une équipe ouest-est, ou alors on mélange un petit peu. Enfin, voilà, ça dépend des années. Ça dépend de qui l'a organisé des années. Mais généralement, voilà, ça se fait comme ça. Et voilà, on prend les meilleurs joueurs du département, on fait un match garçon, un match fille. Et entre ces matchs, vous avez des concours à 3 points, filles et garçons, un concours de menace pour les filles et un concours de dunk pour les garçons.
Ouais, comme l'All-Star Game.
Voilà, comme l'All-Star Game
traditionnel,
ou en proie.
C'est un énorme spectacle. Hein. Je l'ai vu une fois, faut le voir. Parce que on est en Dordogne et voir ça, c'est très intéressant.
C'est ça. Puis là, ça va être la 10e année. Donc là, on va essayer de repartir pour une belle saison. L'année dernière, on reprenait, en fait, avec l'équipe ce truc-là depuis le Covid et on a pris le relais de notre équipe, et donc c'est vrai que c'était un challenge, et franchement on était plutôt très contents même de ce qu'on a fait, et c'était une belle réussite.
Et donc
cette année c'est les 10 ans, donc on va essayer de faire encore mieux et d'essayer d'aller chercher d'autres trucs, quoi.
Ouais bien sûr. est-ce qu'au sein du SAS Basket on a des relations avec le BBD, peu importe à quel niveau, mais est-ce qu'on a des contacts avec le SAS Basket d'Ordogne?
Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, nous, on a une équipe U20, ce que peu d'équipes dans le département ont. Là où elle en a une cette année, je crois, au même niveau que nous. Et je crois qu'il y a une autre équipe, je crois que c'est ISAC, je ne suis pas sûr, mais ils sont en département, il me semble. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que le BBD, tu vois, ils forment des U15, U17, et ils ont U17 France aussi, U18 France du coup.
Oui, U18 France.
Et en fait, si tu n'as pas le niveau pour aller jouer en espoir ou pour partir dans un autre club... Ben, en fait, tu joues avec la une du BBD, enfin en pré-national.
Ouais.
Et donc, forcément, en pré-national, tu as 10 places. Donc, forcément, que si tu as une dizaine de joueurs en cadet qui sortent de là et qui n'ont pas de. Les, qualité pour aller en pré-national, bah, ils sortent de là, ils n'ont plus rien en fait. Et donc nous, ce qu'on leur propose, c'est justement un palier entre les U20. Donc c'est pour ça, cette année, voilà, on a 3-4 joueurs du BBD qui sont venus, des jeunes qui sortaient de cadet aussi, et qui sont en U20 avec nos joueurs. Donc c'est pour ça, ce palier-là est intéressant pour nous aussi, parce que ça nous permet d'avoir une bonne équipe U20, et pourquoi pas aussi de renforcer notre équipe de Régional 3. Donc ouais, on a des contacts avec le BBD là-dessus, et à l'avenir, peut-être d'autres choses qui se préparent.
D'accord, ouais, on reste pas chacun dans son coin. Est-ce qu'il y a eu, par rapport au Covid, est-ce qu'il y a eu des idées de rapprochement peut-être entre clubs, quand on voyait que ça allait un peu tourner vinaigre pour les sports, surtout les sports en salle?
Ouais, je vais te dire, ça fait 10 ans que je fais du basket, je passais par l'SPTT, par Bassiac, Boulazac, Sagnac, ça fait 11 ans que j'entends parler ce genre de choses.
De rapprochement, ouais.
J'ai rarement vu des choses qui ont été faites, ou il y en a eu une année, deux années qui ont été faites sur des choses, des rapprochements, mais ça n'a jamais été sur du long terme. Donc c'est...
D'accord.
Mais je pense que ça pourrait être justement quelque chose d'intéressant. Parce que quand tu regardes dans le Lot-et-Garonne, tu vois plein de petits patelins en fait, qui se réunissent pour faire une grosse équipe et avoir vraiment des bénévoles, avoir des bonnes équipes, tu vois, pour pouvoir jouer à un certain niveau. Et donc ça, c'est important aussi. Et ça peut être intéressant aussi pour nous de faire ça et de se rapprocher. Mais après, c'est vrai que c'est toujours compliqué de laisser son identité de son club, ou alors de fusionner avec d'autres personnes. Que ça peut être compliqué, je peux comprendre.
Ah oui, ça, je confirme. Je confirme, c'est non. Mais bon, après, voilà, si on veut garder du sport dynamique et attractif en Dordogne. On parlait tout à l'heure que le basket de Sagnac était ambitieux. C'est peut-être une saison de transition là, pour l'équipe de R3. L'année prochaine, on met le paquet, on veut monter.
On va essayer. Hein.
Ouais,
on va
essayer. Non,
après,
mais...
on est même pas à moitié du championnat, donc c'est compliqué déjà de se projeter sur l'année prochaine. Mais c'est vrai que là, avec 5 défaites, ça va être compliqué de viser le haut du tableau.
Ouais, 5 défaites, 3 victoires, hein, c'est ça.
Après, on peut jouer, ouais, c'est ouais. Ça. On peut jouer des troubles faits en deuxième phase, mais je pense que ouais, ça va être compliqué. Même si le championnat est plus dense qu'année dernière, et je pense qu'il y aura pas une ou deux équipes qui vont survoler le championnat qu'année dernière. Et l'année dernière, je crois que la montée, c'était jouée à 2-3 défaites, je crois. Cette année, je pense que ça ne se jouera pas tout à fait. Je pense que ça peut jouer un peu plus bas, mais je pense que 5 défaites, ça, c'est un peu trop. Donc, voilà, pourquoi pas jouer les troubles faits et se faire plaisir sur quelques matchs. Et puis après, on regardera vers la saison prochaine, voir ce qu'on peut faire. Hein.
Ouais. Ouais, non, mais bien sûr. Mais oui, il reste encore des gros matchs. Après, il y a les victoires dans le derby à la SPTT et à Sèche ont été quand même... plutôt marquante, celle-là.
Ouais, elles ont fait du bien, surtout que c'est pas des victoires, c'est encore des victoires de peu de points.
Ouais,
mais elles ont fait du bien parce que ça, enfin, la pièce s'est tournée du bon côté, est tombée du bon côté. On voulait s'appuyer sur ça, pourquoi pas faire un coup contre Saint-Delphin, mais ça a pas suffi. Mais voilà, donc gros match la semaine prochaine contre Villeneuve. On a normalement des matchs plus simples, même si c'est des matchs à jouer contre Sarlat ou le Temple, qui sont des équipes qui sont à notre portée,
ouais,
normalement.
Un peu plus bas dans le classement.
Qui sont à notre portée, logiquement. Mais après, ouais, tous les 5 équipes devant nous, c'est des équipes, faut aller les chercher, quoi.
Ouais, c'est solide, ouais. Ouais. On sait qu'aussi, vous organisez des camps d'entraînement pour les jeunes. Alors, explique-nous comment ça se passe, ça.
Ouais, c'est vrai, j'y ai pensé quand j'ai parlé du All-Star Game.
Mais non, mais c'est bon, je suis là, t'inquiète.
Du coup, c'est pendant les périodes de vacances, quand les jeunes, ils n'ont pas forcément d'entraînement, de match. On se fait 2-3 jours. Donc là, on en a fait en novembre ou en octobre?
On est en novembre, ouais, c'est en octobre.
C'est
je
en
crois,
octobre,
pendant
ouais.
Les vacances,
ouais. Donc on a fait 3 jours. Donc on a la chance d'avoir le gymnase de Jet de Beaufort, un beau gymnase aussi qui nous permet d'avoir pas mal de paniers, vu qu'on a des paniers sur les côtés, et donc qui nous permet d'accueillir des jeunes. Donc là, principalement pour l'instant, on a des jeunes de notre club, mais on tend à vouloir aussi avoir des jeunes de notre club, parce que c'est ouvert à tout le monde.
Il faut être licencié.
Voilà, il faut être licencié, bien évidemment, mais ça, c'est ouvert à tous les... joueurs de d'autres clubs. Et du coup, normalement, on va en faire un autre aussi en février par ici.
D'accord.
Donc on communiquera les dates.
Ouais.
Et après, on veut aussi en faire un camp d'été aussi, donc courant juillet. On est en train de mettre ça en place aussi. Donc là, d'avoir un truc, vraiment un gros truc, avec pourquoi pas des intervenants assez prestigieux.
Ouais, ok. Ouais. Ça fait très NBA, les camps d'été, les camps de...
Ouais, mais c'est ça. Hein. Training camp, summer camp.
C'est ça.
mais il y en a plein, et c'est ce qui plaît aux enfants aussi pour progresser, qui aiment ce sport. Et c'est toujours bien aussi d'avoir... parce que dans la saison, c'est vrai que quand tu as 2 entraînements par semaine, tu peux pas prendre le temps individuellement de corriger
chaque
gamin.
Bien sûr.
Et c'est vrai que
Et c'est pas le même état d'esprit non plus. On n'est voilà, pas à l'entraînement, on est dans un autre environnement.
Ouais, c'est ça, c'est un autre environnement. T'as plus le temps de prendre le temps avec les gamins, de créer un peu ce truc de, bah, de récréation. Ou
exactement, de ludique, ouais.
De ludique, ouais, ouais. Et de faire plein de choses. Et puis, généralement, les gamins dorment ensemble. Enfin, voilà, tout, ils parlent toutes les... Bah, les, je sais pas, les camps d'été, c'est sur une semaine, généralement 5 jours. Donc, les gamins passent 5 jours ensemble. Donc, c'est vrai que ça crée des liens forts autour d'une passion. Et ça les fait progresser, mine de rien, assez, assez ouais, rapidement en 5 jours.
Les souvenirs, ça crée des amitiés. Ça, et ouais, on s'en rappellera toujours. Ça, et ça, on a tous ouais, connu ça. Et c'est vrai. Au niveau communication, le club est plutôt pas mal, on va dire. Il nous suit déjà depuis le début, ce qui est agréable. Est-ce que ça, c'est un vecteur important pour le développement d'un club?
Ah, je vais prêcher ma paroisse, donc, je vais dire oui, bien évidemment. Non, mais je pense que oui, oui, c'est hyper important à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du numérique, des vidéos, tout ça. C'est important d'avoir une communication du club, à minima, voilà, mettre les scores, tu vois, des matchs de chacun, les résultats, le planning du week-end. Enfin, tu vois, tu passes sur notre page, tu sais quel exactement, match on joue à telle heure, où on joue, voilà, pour chaque équipe. Donc ça c'est important je pense, et puis même pour les spectateurs, tout ça, de pouvoir savoir que bah, y a telle équipe qui joue à telle heure, et de savoir où c'est, bah, je pense que c'est important aussi pour venir. Et puis après, bon, là pour l'instant j'ai pas encore creusé pour l'instant, mais je pense qu'on pourra, on peut encore améliorer ça et essayer de faire d'autres choses, mais on va, je vais creuser ça.
Ouais, ouais, c'est très bien, mais ouais, non, mais c'est bien, continue à creuser. Les prochaines échéances là, pour le club, on arrive en fin d'année civile. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais qu'on joue, hein, en hiver, c'est l'avantage ouais, des salles, donc voilà.
Mais ouais, on joue jusqu'au 16 décembre, je crois.
Ouais.
Donc ouais, on joue bien jusqu'à tard. Nous, on a les matchs de la Une. Je crois qu'on a un match, justement le 16 décembre, on a un match de l'équipe 1 et de l'équipe 2 le même soir contre Sarlat, où l'équipe 2 joue contre Sarlat 2 et nous, on joue contre Sarlat 1. Ouais. Donc le même soir, donc je pense que là, on va faire une bonne soirée, essayer de faire un repas comme on avait fait.
Je le note, le 16 décembre.
Voilà, note-le, si tu viens.
Ouais, je note, ouais. Sarlat est d'origine, je suis obligé.
Je t'offrirai ton repas, il n'y a pas de souci. ouais, je pense qu'on va essayer de faire une soirée comme on avait pu faire aussi sur un autre soir avec un petit repas, frites et quelques
ouais,
trucs pour voilà, bah, toujours dans cet esprit d'essayer de convivialité, de familial, comme je te disais tout à l'heure. Voilà, après il va y avoir le Noël pour les gamins qu'on va essayer de faire au club, pour les petits. Voilà, on a un tournoi, on voulait faire un tournoi comme on avait fait l'année dernière pour les U11, mais région. Mais du coup, on va le décaler à février plutôt, parce que c'est vrai que là, avec les dates, c'était compliqué.
Parce que du coup,
il y en a qui jouaient le 16 décembre, donc c'était compliqué de le faire le 17. Et après, on avait la date du 23, mais c'était vraiment proche de Noël. Et donc, on s'est dit que c'était mort.
Ouais.
Et ça avait bien marché l'année dernière, mais la date était bonne. Je crois que c'était vers le 19 ou le 20, et c'était pas mal. Donc là, je pense qu'on va le décaler vers février. Et donc, voilà, faire un tournoi U11 région avec... deux équipes par département, les meilleures équipes du département, parce qu'en U11 il n'y a pas de région, tu vois, donc ça permet de faire rencontrer
ouais,
ces
de se croiser,
là,
ouais, bien sûr,
de se croiser ouais. Et l'année dernière ça avait bien plu, donc on va réitérer ça. Donc fin d'année, pas d'échéance particulière à part juste les matchs comme d'habitude. Après, si on a les U15 qui ont des matchs importants, pourquoi pas monter en division 1, ce genre de choses.
Surveiller
voilà,
quoi.
Voilà, surveiller.
Ouais, surveiller sur les réseaux sociaux, ça marche pas mal. On va arriver à la fin de l'émission, ça passe vite. On était très contents de parler de basket et de parler... C'est pas péjoratif des petits clubs parce que ça nous tient à cœur sur RLP. Mais Valentin, merci. Et puis on va suivre les résultats. Et puis on viendra pour ce derby là, le 16 décembre, contre les gars du Périgord Noir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Valentin.
Merci à toi de donner la parole aussi. C'est important au petit club et au basket aussi. C'est important d'avoir tous les sports. Et puis, bonne soirée à tous.
C'est normal. Merci. Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir. Ciao.
RLP Sport, c'est fini, mais l'émission est toujours disponible en podcast sur le site de RLP. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. RLP Sport, en direct, tous les mardis à 19h avec Thomas Delpero.